La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi, nous continuons pour une heure encore de parler d'André Malraux. Malraux, écrivain, grand écrivain, mais pas poète maudit, autodidacte, qui, disait-il, avait ressenti très tôt le sentiment de l'humiliation, lui qui était fou de hauteur et n'aura de cesse toute sa vie que de chercher à s'élever au niveau de l'exceptionnel, de l'héroïque parfois, quitte à enjoliver au besoin sa biographie, quand elle ne cadrait pas tout à fait avec le tableau idéal de la vie de cet homme-là. Sophie Doudé nous parlait lundi dernier. Malraux, c'était l'écrivain de la condition humaine, de la voix royale et de l'espoir, mais c'était aussi le ministre du général de Gaulle. Nous parlions mardi du lien entre ces deux hommes, ainsi que de son rapport à la jeunesse de 68. C'était avec Alexandre Duval-Stalla et Michel Crépu. Et puis hier, Henri Godard s'est arrêté pour nous sur les grands thèmes de ses principaux romans, ainsi que sur ses anti-mémoires. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous parlons de l'homme qui a affirmé la valeur unique de l'art dans la civilisation et qui a voulu introduire les moyens de l'art dans la vie. Car Malraux était critique d'art, mais sa manière de regarder les œuvres n'était en rien académique et n'appartenait qu'à lui. Pour nous expliquer tout cela, je reçois aujourd'hui Jean-Yves Tadier, il est spécialiste de l'œuvre de Proust de Nathalie Sarraute et aussi donc de Malraux pour avoir notamment dirigé le premier volume de ses écrits sur l'art dans la Pléiade, c'était en 2004, volume qui couvre la période 1922-1954. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs.
1935, Malraux avait eu le prix Goncourt pour La condition humaine. Et un an après, pour une nouvelle édition, il m'a demandé de le photographier. Parce que nous étions de très bons amis. Il savait en plus que je n'avais pas le sou. Bon, alors il est venu chez moi. Et sur la terrasse, j'ai fait cette photo qui est aujourd'hui devenue le symbole de Malraux. Avec des cheveux au vent. Et il parlait beaucoup. La bout de cigarette dans sa bouche, il me racontait déjà à cette époque des choses extraordinairement intéressantes sur la photographie et l'art, ce qu'il a publié 30 ans plus tard.
Bonjour Jean-Yves Tadier.
Bonjour Mathieu.
Vous avez évidemment en tête cette photo de Gisèle Freund, de Malraux, qu'elle décrivait à l'instant, les cheveux au vent.
Oui.
Est-ce que Malraux considérait selon vous que cette photo-là, c'était une œuvre d'art et peut-être une grande œuvre d'art d'après vous ?
Probablement, parce que la photographie, il en a parlé à l'époque mieux que personne, à condition que la photographie soit un art, parce que dans le cas, il montrait bien comment elle peut ne pas l'être aussi.
Pourquoi ne serait-elle pas un art selon Malraux ?
Eh bien, elle est un art quand elle transfigure, quand elle apporte une lumière, un cadrage, comme au cinéma d'ailleurs, que Malraux avait pratiqué, donc il pratiquerait dans Espoir. Plus tard. Donc pour lui aussi, la photographie va transformer l'histoire de l'art et notre connaissance de l'art. Par un certain nombre d'éléments, dont l'un est l'attention aux détails, que jusqu'à présent on ne portait pas, et puis d'autre part, elle nous permet de connaître des œuvres du monde entier dans ce qu'il appellera donc le musée imaginaire, qui est l'une de ses grandes trouvailles.
On va en parler. Qu'aurait-il pensé, selon vous, de toutes ces photos qui sont prises sans cesse dans les musées par les visiteurs ? Est-ce qu'il y a pour lui quelque chose d'intéressant, de l'ordre de la création artistique ou pas du tout ?
Je ne sais pas ce qu'il en a pensé. Je peux vous dire ce que j'en pense moi.
Oui, c'est ça nous intéresse aussi.
C'est le contraire de l'art, évidemment. C'est de l'art brut. Il n'y a aucune élaboration. Et en plus, c'est la dispense de regarder. Moi-même, je ne photographierai jamais rien dans un musée parce que ça m'empêche. Je sens que ça m'empêcherait de regarder. Regarder un tableau n'est pas une chose facile, ni une statue, ni un objet. Il faut du temps. On n'y passera jamais tout le temps qu'a passé l'artiste, mais en même temps, on lui doit au moins d'y passer un certain temps, à comprendre que là, il y a tout un temps déposé dans l'œuvre. Or, le selfie, parce que c'est mieux encore, on tourne le dos au tableau pour être photographié avec le tableau. Le selfie est évidemment le contraire de l'art.
Alors, Gisèle Freund le disait en archive, Malraux parlait d'art fréquemment, il s'y intéressait depuis toujours, il connaissait tout, par exemple, de l'art khmer, pour commencer, dans sa jeunesse.
Il commence en effet par un coup de foudre. Comme beaucoup d'entre nous, la vocation naît toujours d'une sorte de coup de foudre. Il se trouve dans une salle qu'on reconstituait après la guerre de 14, en 19, au Louvre, une sorte de rotonde où on a regroupé quelques chefs-d'œuvre. Et il sent une émotion physique, des battements de cœur violents, une sorte de malaise face à ces chefs-d'œuvre. C'est le mémorial de Pascal, c'est la Madeleine de Proust. Il y a toujours une extase à l'essence d'une vocation. Ça commence là. Très tôt, il fréquente à Montmartre, grâce à Max Jacob, notamment, un ensemble des grands artistes du temps, dont sans doute Picasso.
Donc et il puis, a vu Picasso très jeune.
Il semble,
du
oui,
temps
il
de la
semble.
Première période.
C'est toujours difficile d'émêler la légende et la vie, mais il semble qu'il l'ait connu assez tôt. Il ne sera jamais intime, mais il aura toujours connu, jusqu'à La tête d'Obsidienne, qui était un très beau livre dans les années 70.
Mais c'est sur Picasso.
Donc voilà. Il s'intéresse à des peintres de niveau inégal, d'ailleurs. Il écrit aussi bien sur Galanis, qui est un excellent illustrateur, mais qui n'est pas du niveau de Braque. Et il connaît aussi les autres. Il écrira constamment pendant 35 ans, jusqu'aux Voix du silence, et bien sûr encore après, sur là, on peut dire que les romans sont un entracte de 10 ans, un peu comme dans la vie de Bernanos pour les essais, pour les poésies, pour Valéry. Il y a quelque chose d'autre qui fait le fond de sa vocation et qui est le désir d'écrire sur l'art, d'être non pas un historien d'art, mais un écrivain d'art.
Alors vous dites, ça c'est tout de même très fort, qu'en fait, les romans, pour Malraux, c'est un entracte, et que ce qui compte vraiment, ce sont les écrits sur l'art. Pourtant, on a l'image inverse.
Oui, je me rappelle dans ma jeunesse combien j'étais désolé que Malraux n'écrive plus de romans, par exemple. Mais en réalité, c'est ça. Alors, il y a d'ailleurs dans tous ces romans des épisodes où il est question d'artistes ou de l'art. Jusqu'à Hildesheimburg. Donc c'est comme ça que je vois les choses maintenant.
Donc à 41 ans, il n'écrit plus de romans. Qu'est-ce qui se passe selon vous chez lui pour qu'il se dise maintenant j'écris sur l'art?
Le pouvoir de fabuler, c'est un don mystérieux. Ça n'a d'ailleurs aucune valeur artistique. Il y a d'excellents conteurs d'histoire qui publient des romans tous les jours qui ne sont pas des œuvres d'art. Ça n'a rien à voir avec l'art. Mais le pouvoir de fabuler naît, on l'a ou on ne l'a pas, et puis un jour, parfois, il s'éteint. Regardez, par exemple, Julien Gracq. Un beau jour, il n'a plus pu du tout écrire de romans. On souhaite en écrire, et puis on ne le peut simplement pas. C'est comme l'amour, parfois.
Mais cette idée que l'écrit, finalement, suggère trop, explique trop, alors que regarder une œuvre d'art et une sculpture en particulier laisse l'imaginaire plus ouvert d'une certaine manière. Est-ce que vous pensez que cela a pu jouer dans, à un moment donné, le tournant qu'a pris Malraux vers l'art? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose dans sa maturité qui lui laissait plus d'espace, qui laissait plus d'espace à sa pensée que le roman?
Ce n'est pas qu'il ait eu peur d'écrire trop. J'ai toujours beaucoup écrit, en fait, et beaucoup plus qu'on ne croit, puisque ces textes sont objets de préparation infinie, y compris les Voix du silence.
Pas d'écrire trop, mais que l'écrit, finalement, explique trop, alors que l'art laisse plus ouvert les choses.
Le problème, en effet, pour lui, n'est pas d'expliquer. C'est plutôt de comprendre et de faire voir. Et non pas seulement de faire voir, mais de faire aimer, d'où des malentendus, bien sûr.
Alors vous, Jean-Yves Tadié, si vous deviez emporter un livre sur une île déserte, vous avez dit que vous emporteriez précisément ces écrits sur l'art. Qu'est-ce qui vous touche tellement au point que ça, vous en faites l'un de vos livres préférés?
En fait, c'est toute ma jeunesse. C'est que, comme pour beaucoup, nous avons à quelques-uns de notre génération, découvert finalement le sens de la peinture, et un petit peu de la sculpture à un moindre degré, et toutes sortes d'arts que nous ignorions tout à cette époque-là, faute de grandes expositions, faute d'avoir voyagé, les voyages étaient difficiles, toutes sortes d'arts que Malraux nous révélait. Malraux nous apprenait une chose, c'est qu'il n'y avait pas que la peinture italienne, c'est qu'il y avait bien autre chose dans la vie et dans le monde. Il y avait l'Océanie, il y avait l'Afghanistan, il y avait la Chine, il y avait le Japon, il y avait les arts indiens, nous en ignorions tout. Nous connaissions le musée de l'homme et le musée Guimet, mais c'est déjà beaucoup, mais c'est à peu près tout. Et tout à coup, il nous apprenait plusieurs choses. Il y avait non pas les frontières, auxquelles on n'a que trop tendance à revenir maintenant dans tous les domaines, mais que le monde nous était entièrement ouvert et que tout se valait. C'est-à-dire, nous apprenions qu'il n'y avait pas de hiérarchie. Il n'y avait plus au sommet Michel-Ange et Léonard de Vinci, quelle que soit leur grandeur, et nous apprenions tout à coup qu'une statue africaine ou un Wopi des Indiens était l'équivalent de la Joconde. Et pour nous, c'était une libération. C'est ça que je lui dois. Je lui dois l'avoir aimé, parce que justement, il me faisait aimer les choses. Et puis, j'admirais, par un contraste extraordinaire avec mes professeurs, le don qu'il avait d'intelligence, de tout résumer en trois phrases, de faire comprendre toujours, non pas comment c'était né, par quelle cause, par quel enchaînement, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, on arrivait à, mettons, à Braque, mais comment c'était au contraire surgi contre et quelque chose et du néant. Comment tout, finalement, pouvait être aimé sans cause.
Et c'est en cela qu'il est, vous le disiez, un écrivain d'art et pas un historien d'art.
Pour être écrivain d'art, bien sûr, professionnellement, on écrit sur l'art, mais en même temps, les grands écrivains d'art, ils se rattachent, mettons, à des gens comme Baudelaire, un peu Diderot, si l'on veut, Valéry, quelques autres, Huysmans, peut-être. Les grands écrivains d'art ont aussi un style, c'est-à-dire que c'est leur style et leur phrase qui agit sur nous de manière magique. Breton aussi a ce don.
Donc il reprochait finalement aux critiques d'art habituels, aux historiens d'art habituels, de vouloir tout enfermer dans une chronologie.
En fait, il ne leur reproche rien. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'est pas leur ennemi. Il dit, je fais autre chose. Les historiens expliquent, ils montrent un enchaînement de causes, d'effets, de sources, de tout ce que nous connaissons bien. Et moi, je fais tout à fait autre chose. Je me demande ce que cela signifie et je fais aimer. Et puis, il y a autre chose. C'est une forme de pensée qui nous séduisait beaucoup parce que nous la retrouvions en poésie, c'est la métaphore, la mise à côté. C'est-à-dire que Malraux ne peut pas penser une chose à la fois. Il en pense plusieurs, d'où l'impression de fouillis qu'on a parfois dans sa écriture et dans sa conversation.
Et de difficulté,
il pense tant de choses à la fois qu'il met à côté, oui, la difficulté. Il met à côté deux choses. Il dit très bien qu'on comprend moins bien une statue égyptienne en la comparant avec 99 statues égyptiennes qu'avec une seule statue grecque, ou l'inverse. C'est-à-dire que la mise à côté d'un ange de Reims avec une statue gréco-bouddhique, fait, selon lui, beaucoup mieux comprendre et l'art gothique et l'art d'Afghanistan que le fait de parler simplement de l'art gothique.
Mais du coup, c'est quand même une critique en creux des historiens d'art, parce que les historiens d'art qui s'intéressent à la statue grecque, ils vont connaître justement 100 statues grecques, ils ne vont pas forcément les comparer avec les statues égyptiennes.
C'est le problème du tout spécialiste, c'est vrai aussi en critique littéraire. Combien de gens sont dans l'université, les hommes ou les femmes d'un seul auteur, sans en être jamais sorti, ou d'une seule langue, ou d'une seule littérature. Malraux avait cette ambition magique de connaître toute la planète.
Mais les critiques d'art, eux, considéraient Malraux comme peut-être pas un ennemi, mais en tout cas quelqu'un qui n'était pas suffisamment comme il faut, enfin qui ne faisait pas de la bonne critique d'art, non?
Ça dépend des périodes. quand il a été ministre, il avait tout le monde à ses pieds.
Oui, mais c'est peut-être pour une autre raison.
N'oubliez pas que dans ces livres sur l'art, toute la conservation et toute l'histoire de l'art française faisait les notes, les appendices, il suffisait de consulter les imaginaires. C'est d'après sa mort qu'il n'y avait plus de risque, il n'y avait plus de poste à obtenir, il n'y avait plus de faveur, donc vous pouvez taper dessus. Et c'est devenu une sorte de repoussoir, jusqu'à l'oublier complètement. Je signale que le très beau livre de Daniel Arras sur le détail ne mentionne pas ce que Malraux a dit bien avant lui du détail. Il aurait pu au moins faire une note.
Vous écoutez la compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons des écrits sur l'art de Malraux avec Jean-Yves Tadier. Les influences en matière d'art de Malraux, c'est Baudelaire, on en a parlé à l'instant, c'est aussi Valéry, Jean-Yves Tadier.
Ils ne se sont pas vraiment connus et Valéry méprisait Malraux, il faut bien le dire. C'était pas réciproque. Mais ils avaient en commun ce que
j'ai. Qu'est-ce qu'il méprisait chez Malraux ?
Ce que j'ai dit à un moment dans son journal, c'est quand je suis avec Valéry ou Malraux, je n'essaie pas de comprendre, j'essaie juste d'avoir l'air de comprendre. Ils avaient tous les deux une conversation foudroyante. C'était ça qui était. Mais en fait, oui, Baudelaire est son grand maître. Parce que Baudelaire est un formidable découvreur. Et puis, comme je le dis aussi, il y a Thomas Apollinaire. Apollinaire, qui a tout découvert, on l'a vu encore récemment à l'exposition de l'Orangerie, Apollinaire a eu un génie de la découverte. C'est pas tout à fait le cas de Malraux, bien qu'on n'en soit pas très loin. Et alors Apollinaire était à mon sens un merveilleux découvreur, peut-être dans le discours sur l'art, est-il moins brillant, moins profond que dans ses poèmes. Il y a là, ça tourne un peu court, mais il ne se trompe jamais et c'est stupéfiant. Il a tout compris, tout vu, tout senti, comme certains grands collectionneurs, mais qui n'écrivaient pas, comme Chouquine, par exemple, dont on voit actuellement Vuitton, cette merveilleuse collection.
Ouais, si on arrive à y rentrer, c'est vraiment le problème.
Donc, à partir de là, il a ses maîtres et en effet, il imite d'abord. Et ensuite, il devient lui-même. Il connaît un certain nombre de penseurs. Nietzsche, d'abord, bien sûr, dont il reprend quelques grands thèmes.
Notamment le thème de la métamorphose.
Voilà, le thème de la métamorphose et quelques autres. Et puis, il lit. Il connaît tout. Il fréquente les bibliothèques. Il a une puissance d'assignation énorme. Il a lu tous les historiens dont il ne parle pas, parce qu'il ne fait pas de notes, Malraux. Il connaît des gens comme Strigovski pour l'Arcopte, il connaît les travaux du Suisse sur la sculpture Copte dans 31, il connaît aussi, bien sûr, Elifort, dont on l'a rapproché, mais c'est très cher dans la salle d'Elifort, il connaît Faucillon, il connaît Émile Malle, il connaît tout ce qu'on peut connaître, mais il arrive tout de même à faire autre chose et à s'opposer discrètement à eux, sans jamais d'ailleurs polémiquer, parce que en fait... On a attaqué Malraux violemment, comme Gombrich, par exemple, qui a écrit un article qui a infesté toute la pensée sur Malraux, article assez méchant, où il reproche d'être un grand romantique. Eh bien non, il connaît tout ça, mais en même temps, ce n'est pas un homme qui... Malraux ne dit jamais du mal de personne, c'est quelque chose qu'il faut noter en passant. Il a trop à faire avec les problèmes qu'il se pose. Et parmi les problèmes qui se posent, il y a celui de la représentation.
Voilà. Et alors, on a évoqué la question de la métamorphose, et ce concept malrussien de la métamorphose. Peut-être faut-il s'y arrêter un petit peu, Jean-Yves Tadier,
alors,
et dire de quoi il
le
s'agit.
Le mot vient de Nietzsche, sauf erreur. Il y a une double métamorphose, d'ailleurs. Il y a le changement, c'est une idée très belle, le changement de l'œuvre à travers le temps. Mm-hmm. Changement pour elle et pour nous. l'œuvre se dégrade, une statue grecque peinte ou une statue gothique peinte n'est plus peinte, par exemple, sauf quand en Allemagne, par exemple, on a voulu restaurer cette peinture, c'est l'objet de grandes polémiques d'ailleurs, et puis l'œuvre change, c'est-à-dire que nous ne la voyons pas de la même façon que les générations qui nous ont précédés. Mettons le Laocoon, qui est du Vatican, qui a paru un grand chef-d'œuvre au temps de Lessing, au XVIIIe siècle, maintenant n'est plus pour nous qu'une œuvre rococo écrasée par tant d'autres œuvres de l'art classique. Donc, une œuvre peut changer. On ne la voit pas de la même manière, et c'est vrai de tous les artistes. Donc, le temps, qui est le grand maître, a frappé l'œuvre en elle-même et l'œuvre pour nous. Pour nos publics.
Et l'exemple peut-être le plus clair de cela, exemple qu'il donne, je crois, lui-même, c'est l'exemple du crucifix, par exemple. Le crucifix qui a au départ dans la société une fonction qui est totalement religieuse. Et puis, à la Renaissance, on va commencer à voir cet objet comme étant davantage un objet d'art qu'un objet à fonction, qu'un objet fonctionnel.
Voilà d'ailleurs qui explique l'iconoclasme, entre parenthèses, qui ressurgit à toutes les époques. L'iconoclasme de Byzance annonce l'horrible iconoclasme du front islamique, par exemple. Si ces gens détruisent les œuvres d'art, c'est qu'ils les conçoivent comme des objets religieux désacralisés. Ils ont tort, bien entendu. Et Malraux dirait bien que si nous étions uniquement croyants, il nous serait insupportable de voir dans une salle de musée une juxtaposition de vierges, de bouddhas, etc. Parce que pour nous, ils auraient leur place uniquement dans une église ou dans un temple. Donc, à partir du moment où nous les concevons comme œuvres d'art, nous ne les concevons plus comme objet religieux, et c'est là qu'intervient la métamorphose des dieux aussi. C'est-à-dire qu'il y a une métamorphose de l'œuvre, il y a une métamorphose du public, et il y a une métamorphose du sujet aussi. Si Dieu n'est plus qu'un homme, par exemple, le sujet lui-même a changé, c'est une métamorphose du dieu.
Et là, donc, on est davantage dans l'inspiration pascalienne de Malraux, qui existe
mais
aussi.
Vous avez tout à fait raison, Pascal est allé remettre de Malraux. Il a le même, au fond, Malraux a une pensée fragmentaire, une pensée par éclair. Et il faut raccorder, après, par du discours. Pascal n'y est jamais complètement arrivé, l'apologie de la religion chrétienne n'a jamais été complètement rédigée, les trous n'ont pas été bouchés, ça n'enlève rien à sa grandeur. Nietzsche, non plus, ne peut pas construire un discours suivi, et Malraux a du mal à le faire, si bien que nous allons d'éclair en éclair quand nous le lisons. Avec de temps en temps un petit peu de remplissage entre deux éclairs.
De remplissage, vous le dites avec quel ton, ce mot de remplissage?
C'est simplement un mot technique pour moi. C'est-à-dire qu'il faut, on a écrit une pensée fulgurante. Par exemple, quand il écrit, pour critiquer l'idée du sujet, pour dire que le tableau n'est pas dans le sujet, mais dans l'œil du peintre, il dit le tableau d'un portrait d'un capitaine n'est pas supérieur à celui d'un lieutenant. Phrase que je trouve extraordinaire, mais après ça, il faut écrire autre chose.
Quelle est votre définition personnelle du chef-d'œuvre ?
Je ne crois pas qu'il y en ait, je crois que c'est un héritage. Ben, comme vous savez, le mot est employé par nous un petit peu dans le sens de œuvre capitale. Mais il n'est pas né dans le sens d'œuvre capitale, parce que au moment de Chartres, on n'aurait pas dit du tout que le portail royal était un ensemble de chefs-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre, c'était des choses difficiles, très élaborées. Enfin, c'était le sens du mot, c'était le sens artisanal. Et ça a glissé. Et puis, après, l'ancien mot artisanal est devenu l'œuvre la plus réussie, je compte. Je crois qu'à la vérité, maintenant, nous sommes assez assis entre deux chaises, parce que quand nous parlons du chef-d'œuvre, nous parlons toujours des choses du passé. Laquelle de vos amis ne serait pas mal à l'aise si vous lui disiez quel est le chef-d'œuvre de Picasso? Elle aurait tendance à dire oui, je veux bien, qu'importe, n'est-ce pas? Et cependant, les œuvres capitales existent, parce que Guernica est naturellement une œuvre capitale de Picasso, nous le savons tous. Alors, il reste d'anciens éléments, par exemple l'étendue. Si Guernica était un petit tableau, il n'aurait pas cette sorte de gloire Bon, mais il n'y a pas que la dimension, il y a aussi la signification. Nous pouvons très bien supposer une nature morte, Picasso, qui soit une réussite éclatante. Bien. Seulement, il n'y aurait pas le tragique de Guernica. Il n'y aurait pas le massacre.
Stadier, est-ce que André Malraux a cherché toute sa vie, selon vous, à définir le chef-d'œuvre, ou en tout cas, est-ce qu'il s'est posé longuement la question de ce que c'était qu'un chef-d'œuvre ?
Je ne pense pas qu'il y ait repris cette notion très classique au demeurant en ces termes. Je pense plutôt que ce qui le passionne, c'est à travers toutes les civilisations, la lutte contre l'histoire et ses fatalités, et contre la mort. Et chacune d'elles, à ses yeux, est une manière de triompher de la mort, chaque fois différente, et d'écrire ces différences le passionne.
Même quand l'œuvre n'est pas réussie, au sens... du chef-d'œuvre, justement.
Il faut dire que lui, il va naturellement, tout de suite, il cherche des sommets. Le reste ne l'intéresse pas. C'est comme dans ses romans. Gilles lui dit un jour, il n'y a pas d'imbécile dans vos livres. C'est un reproche. Et Malraux répond, c'est que je n'aime pas à m'ennuyer. Quant aux idiots, la vie suffit. Bien, c'est la même chose. Les œuvres médiocres nous encombrent. Allons tout de suite à la Dame d'Elche, à la Maestà Morti d'Elefanta, à toutes ces œuvres dont il va répéter les titres comme des litanies au fil de ses écrits et qui sont comme des phrases types, comme chez Beethoven, certains thèmes qui reviennent musicalement.
Vous pensez qu'il n'avait de respect que pour les très grands artistes et que la démarche artistique ne lui suffisait pas ?
C'est pas une question de respect, c'est que il y a suffisamment à faire avec tout ce qu'il considérait comme des sommets pour pas consacrer. Il n'aurait jamais conçu une exposition comme le Second Empire au musée d'Orsay, par exemple. Mmh. Winterhalter ne fait pas partie de son corpus.
De toute façon, le musée d'Orsay n'est pas un musée qu'il aurait, lui, mis sur pied du temps de son ministère. Il l'aurait trouvé trop académique, Jean-Yves Stadier.
Oui, sûrement. C'est-à-dire qu'il y a une réhabilitation de l'académisme, en effet, c'est-à-dire qu'il n'aurait jamais approuvé. Il se moque de Cabanel, par exemple, à un moment dans son œuvre. C'est un repoussoir. Et Cabanel est devenu, pour le visiteur, quelque chose qui est plutôt mieux que l'Olympia de Manet, maintenant.
Mais pourtant, c'est un marchepied aussi, l'académisme, pour comprendre, à apprendre l'art, parce que, évidemment...
Oui, c'est plutôt une voie de garage. Enfin, non, c'est pas... Non, parce que c'est ce qu'il appelle les arts d'assouvissement. C'est-à-dire que le bourgeois qui se commandait une femme nue ou qui la commandait à Cabanel se disait quelque chose de merveilleuse que l'art qui me permet de jouir sans rien dire à ma femme. Tandis que pour Malraux, au contraire, il y a une rupture totale entre la vie et l'art.
Alors, vous dites, Jean-Yves Stadier, que Malraux n'aime pas l'histoire de l'art. En revanche, il aime l'histoire.
Non, il n'a pas dit qu'il n'y aimait pas. Il n'en fait pas et il s'en sert, mais il n'en écrit pas.
Enfin, qu'il a une approche différente.
Oui.
Mais l'histoire, en revanche, est partout présente dans son analyse de l'art.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a... Il recommence d'ailleurs dans les quatre parties des voies de finance. À chaque fois, il refait une certaine histoire des arts dans l'ordre chronologique, montrant de manière hegelienne, au fond, un certain développement d'une idée. Mais il se sert de l'histoire, mais les vraies œuvres d'art, les grandes œuvres, pour lui, comme que pour d'autres, comme pour Proust par exemple, sont transhistoriques. Ce geste dépasse le temps. Et en même temps, c'est d'aujourd'hui. L'art contemporain, pour Malraux, permet de découvrir les arts anciens. C'est une de ses grandes idées. C'est pas le contraire. C'est pas parce que vous connaissez déjà la Chine des Song ou l'art du temps de Périclès que vous allez mieux comprendre Chardin, par exemple. Au contraire, c'est Picasso, Braque, Miro, etc., qui nous permettent de mieux comprendre Lascaux.
Comment ? Pourquoi dans ce sens-là et pas dans l'autre ?
Parce que on part d'aujourd'hui pour comprendre. Pour lui,
on part de soi d'aujourd'hui pour comprendre le passé.
C'est une idée jeune. Enfin, c'est une idée qui est très belle. D'ailleurs, c'est l'idée de sa jeunesse. Finalement, on inverse les termes. S'il n'y avait pas d'aujourd'hui, il n'y aurait pas d'hier. Et c'est aujourd'hui qui permet. Alors, c'est pour ça que nous sommes proches de Lascaux, par exemple. Il n'y a plus de temps pour Malraux. On fait l'histoire, mais on la dépasse parce que tout cela est en quelque sorte simultané. Nous sommes dans un monde où, comme dans le triple écran d'Abel Gorz, Napoléon, tout est simultané. Et les gestes préhistoriques, la Vénus aurignacienne, tout cela, c'est comme Picasso. Et c'est Picasso, d'ailleurs, qui nous permet de comprendre, justement, la Vénus aurignacienne pour Malraux. Pas l'inverse.
Donc, d'une certaine façon, ce sont les artistes qui font l'histoire. Ce sont les artistes qui sont aussi les acteurs
oui,
de l'histoire.
Oui, ils la constituent parce qu'ils s'ajoutent à elle, mais ils la détruisent parce qu'ils la transcendent.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Jean-Yves Tadié, on marque une pause dans cette émission pour retrouver, comme chaque jeudi, nos amis du service culture de l'Obs. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est Bernard Géniès qui nous fait le plaisir de sa présence. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Est-ce que vous diriez que les écrits sur l'art de Malraux sont aussi pour vous une boussole quand vous regardez un tableau, quand vous écrivez un article sur une exposition? Est-ce que vous pensez à ces écrits sur l'art?
Alors je vais vous répondre franchement, je les regarde assez rarement. Mais ce que je trouve chez Malraux qui est intéressant, c'est en fait c'est un brasseur de culture, un brasseur d'histoire, un brasseur de messages. Ce qui l'intéresse chez lui, je crois, dans l'art, en dehors de sa spécificité propre de certaines civilisations, c'est aussi le fait de pouvoir confronter. La confrontation chez lui, c'est ce qu'il va faire dans le musée imaginaire, est un élément essentiel. Non de la compréhension, il n'utilise en effet jamais ce terme, il ne s'agit pas de comprendre forcément les œuvres.
On peut pas comprendre l'art de toute façon, selon Malraux.
Les historiens
de
l'art.
Ou alors peut-être que comprendre l'art, c'est justement lui enlever sa magie.
Les historiens de l'art sont là pour ça. C'est-à-dire que comprendre, essayer de comprendre un art sur par exemple, un système de symbolique, sur ce que représente telle ou telle œuvre, ou ce pourquoi elle a été réalisée et conçue, permet certainement de la regarder différemment. C'est l'histoire du crucifix. Quand le crucifix est un crucifix, soit, mais quand le crucifix est considéré comme une œuvre d'art, on va le regarder différemment. Donc je pense que pour lui, l'art est un véhicule de pensée, est un véhicule d'appréciation du monde, en dehors de toute organisation, en dehors de toute conception rigide, etc. Parce qu'on peut dire, par exemple, de l'histoire de l'art, que quelquefois, tout à l'heure, Jean-Yves Tadié parlait de Daniel Arras, l'historien de l'art, c'est celui qui étudie, c'est celui qui va essayer de reconstruire l'œuvre généalogique d'une œuvre, qui va l'étudier, qui va l'explorer. Malraux, je crois que ça n'intéresse pas vraiment. Ce qu'il veut savoir, lui, et je crois qu'on dirait aujourd'hui, c'est l'homme du choc visuel. C'est-à-dire, pour lui, les objets sont avant toute chose, et ce sont les chocs qu'il a éprouvés lui-même, des sortes de... Alors, message, c'est peut-être pas le terme qui convient. En tout cas, ce sont des objets, ce sont des réalisations qui sont perçues par nous. Et quand il explore, en effet, ce thème de la métamorphose, l'œuvre d'art qui change, etc., c'est vrai qu'elle change dans l'histoire, parce que l'œuvre évolue, la peinture évolue, les pigments s'oxydent, etc. Mais c'est en fait ce qu'il nous dit, et ça, en ça, je trouve que son approche est intéressante, l'œuvre d'art nous appartient aussi. Quand on regarde aujourd'hui Rembrandt au Louvre, c'est notre Rembrandt à nous. Les historiens de l'art seront là pour nous dire, attention, si vous regardez Rembrandt, regardez ceci, pensez ceci, concevez ceci. Mais je crois que Malraux, en fait, moi, si je devais résumer son approche, c'est quelqu'un qui nous permet, c'est un passeur, de nous réapproprier l'art et en tout cas de le concevoir d'une manière, je dirais, presque plus individualiste, plus intime. Et ça, c'est très important, je pense, dans la conception de l'art qu'on peut avoir.
Alors, allons maintenant visiter les pages de l'Obs et non les musées. Quoique, c'est un petit peu la même chose puisque vous souhaitez nous parler aujourd'hui d'une affaire qui secoue, quoique doucement, n'exagérons rien. Le monde de l'art, en même temps que le monde de l'édition, c'est la publication par le Seuil d'un carnet de dessins dont l'éditeur nous dit qu'il serait de la main de Van Gogh.
Alors, en effet, l'éditeur l'affirme, et avec lui une spécialiste de Van Gogh, enfin, pas une spécialiste, une grande spécialiste, mais enfin quelqu'un qui a déjà organisé une ou deux expositions autour de Van Gogh, qui a écrit sur Van Gogh, et qui affirme en effet que ce carnet est authentique. À l'inverse...
Donc à l'intérieur, on trouve quoi ?
Alors, à l'intérieur, on trouve 65 dessins, qui sont des dessins de la période dite d'Arles. Arles, c'est la ville dans laquelle Van Gogh, pardon, va séjourner entre 1888 et 1890, avant de partir, de quitter Arles pour finir sa vie à Auvers. Durant cette période, d'ailleurs, il va travailler aux côtés de Paul Gauguin, quelques mois, ça se passe assez mal. Que fait-il pendant cette période et que voit-on dans ce carnet? On voit à peu près l'univers de Van Gogh, ce qu'il a sous les yeux. Ce sont des paysages de Sainte-Marie-de-la-Mer. Il va y faire un petit séjour avec Gauguin, enfin une journée en fait. Ce sont des cyprès, ce sont des paysages arlésiens, ce sont des portraits. Il y a un portrait notamment de Gauguin, etc. Donc, à première vue, c'est bien du Van Gogh. Et à seconde
vue, ça corrobore l'histoire précisément personnelle, la biographie de Van Gogh.
Tout à fait.
D'autant que c'est apparemment dessiné sur un carnet qui aurait été donné par l'hôtelier de Van Gogh, c'est ça ?
Oui, en fait, qui aurait été remis à l'autre, c'est une histoire un peu compliquée, mais on va essayer d'être bref, qui a été remis par le docteur Ray, qui est un psychiatre, enfin, jeune psychiatre, hein, il a 20 ans, qui a soigné Van Gogh lors de son internement à Arles, puis à Saint-Rémy-de-Provence, et qui va remettre aux hôteliers, Ginou, ce carnet en disant, enfin, il le dit pas, mais on devine, Van Gogh avait dû l'oublier, je vous le remets donc, à charge pour vous de le lui
d'accord,
transmettre,
donc ça,
etc.
Ça semble attester de l'authenticité de ce carnet, de ses œuvres. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard Venier?
C'est un petit peu bizarre, parce que d'abord, il faut savoir que Van Gogh a réalisé un portrait, un tableau, du docteur Ray. Ce docteur Ray a conservé le tableau. Alors, une légende affirme que, en fait, le docteur Ray, il trouve que cette peinture-là n'est pas très intéressante. Il s'en serait servi pour boucher un trou dans un poulailler. Moi, j'y crois pas trop. J'y crois modérément. Donc, ce docteur Ray conserve un tableau, un portrait que fait de lui Van Gogh, et les dessins, qui sont quand même assez beaux, hein. Un dessin de Van Gogh, c'est beau. Et puis là, il dit, d'un seul coup, il dit, oh, finalement, je vais les rendre, etc. L'affaire est un petit peu compliquée. Donc ce qui va un peu faire bousculer ou basculer la conception qu'on a de l'authenticité ou pas de ce carnet, c'est en fait l'avis émis par le musée Van Gogh d'Amsterdam. Alors l'éditeur français se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce musée qui attribue ou n'attribue pas, de quel droit ?
Qui s'est trompé par le passé d'ailleurs, en l'occurrence, ce
alors,
musée.
Alors, l'histoire de l'art, je pense que Jean-Yves Tadier les connaît peut-être aussi bien que moi, on pourrait dire que attribution, désattribution, si on regarde l'histoire de Poussin, des Georges de la Tour, c'est la loterie tous les jours. Enfin, une loterie quand même, ou à laquelle participent des experts. Il faut faire attention. Hein, pas ce... Et donc là, l'expertise du musée Van Gogh, enfin, à mes yeux, en tout cas, pour moi, est réelle. Ce sont vraiment des gens qui travaillent sur l'œuvre de Van Gogh. Et donc, je pense que leur avis a une valeur.
Jean-Yves Tadier, est-ce que vous pensez que ces carnets sont authentiques? Est-ce que ça a d'ailleurs un intérêt pour vous?
Bien sûr, ça a beaucoup d'intérêt pour moi, mais je ne suis absolument pas compétent. En revanche, je pense aux pages très intéressantes de Malraux sur le faux en art. Notamment à propos de l'exemple jadis célèbre de Van Meegeren et des faux Vermeer, il montre très bien comment à une époque le faux peut arriver à tromper tout le monde, et puis 30 ans après on comprend pas même comment on a pu croire que c'était vrai. Et il montre aussi très
là encore
bien
c'est la métamorphose,
ce mystère, n'est-ce pas, on dit toujours mais vous êtes des snobs, vous l'admirez si on vous dit que c'est de Van Gogh et vous le traînez dans la boue si c'est pas de lui. Mais en réalité, ce que montre très bien aussi, c'est que nous attachons une grande importance au geste de l'artiste, et que si le geste est là, nous sommes émus. Mais si c'est un copiste fut-il de génie, comme il y en a eu d'autres à d'autres époques, des affaires célèbres, et encore tout récemment,
c'est là où,
alors à ce moment-là, ça perd tout sens.
C'est là où l'œuvre d'art est au-delà de l'objet d'art, mais c'est aussi quelque chose qui est un peu surnaturel.
Que des objets puissent ressurgir, que des autographes puissent ressurgir, que des dessins puissent ressurgir, il y en a beaucoup de témoignages. Mais ensuite, j'avoue que je ne sais absolument pas.
Merci beaucoup Bernard Géniès. Les livres, les arts plastiques, le théâtre, tout cela traité chaque semaine dans les pages culture de l'Obs. La compagnie des auteurs reprend son chemin au travers des écrits sur l'art d'André Malraux. Nous sommes avec Jean-Yves Tadié qui a édité une partie de ses écrits sur l'art dans la Pléiade.
André Malraux, comment serait conçu pour vous le musée idéal ? Qui aurait-il exactement dans le musée idéal ?
À l'heure actuelle, il est presque inévitablement imaginaire. C'est-à-dire que c'est avant tout un musée de photographie. Parce que le nombre d'œuvres qui ne peuvent pas être imaginées au musée est absolument énorme. Nous n'avons pas de cathédrale dans les musées. Nous n'avons ni les grandes grottes de l'Inde, ni celles de la Chine, tout bonnement à cause des dimensions. Par conséquent, le musée idéal, c'est le musée imaginaire. Alors, qu'est-ce qu'il est ? La totalité des formes qui ont été inventées par les hommes. C'est-à-dire toutes les formes qui ont été autre chose que des imitations.
Cette idée, Jean-Yves Tadié, du musée imaginaire, Malraux le théorise dans un de ses grands ouvrages qui est « Les voies du silence ».
C'est en effet la première partie des Voix du silence que le musée imaginaire, qui avait été d'abord publié par Skira sous le titre Psychologie de l'art aux années 48, c'était le premier à l'époque de trois volumes. Et tout remonte en réalité aux années 30, où en même temps que Walter Benjamin, qu'il connaissait d'ailleurs bien, il découvre l'importance de ce que Benjamin appelle la reproduction mécanique des œuvres d'art. La photographie, tout simplement, de l'œuvre. Qui n'est pas très ancienne, mais bien sûr, il y avait tout de même des livres où il y avait des photos, en général en noir et blanc, très, très rarement la couleur, à l'époque des moyens de l'époque, c'était le très grand luxe, intégrés au texte, et d'ailleurs sans aucun souci d'art. Et ces photos étaient de qualité assez médiocre, il faut bien le dire. Les progrès ont été extraordinaires par rapport aux livres publiés chez Laurent dans la guerre de 14 et que consultait Proust, par exemple. Donc, il découvre cela et il leur donne un sens. Nous ne pouvons pas voir toutes les œuvres du monde entier. Nous ne pouvons pas non plus les transporter, comme il nous le dit à propos des grottes de Longmen ou d'Elora ou d'Agincha. Mais nous pouvons les photographier. Et donc, c'est comme ça que nous connaîtront tous les arts du monde. Donc c'est un moyen essentiel et sa position sur ce point est très différente de celle de Baudelaire, par exemple.
Exactement, qui était pour le coup plutôt contre la photographie.
Même Proust, qui avait beaucoup utilisé les ouvrages de photos d'art, parle de la reproduction mécanique comme un art réaliste et sans intérêt.
Mais est-ce qu'on est vraiment en présence d'une œuvre d'art quand on regarde une photo, par exemple, d'un tableau ?
Si vous regardez celle qu'il rassemble dans son musée imaginaire, ce sont toujours des photos spéciales, dues parfois à de grands noms, mais il y a des éclairages, il y a des mises en scène.
Bah justement, donc il y a une intervention qui dépasse l'intervention.
Oui, c'est ça. C'est la photo d'art pour Malraux est déjà une œuvre d'art. Et son livre apporte un degré d'art de plus.
Donc ça n'est pas l'œuvre d'art qu'on regarde, mais une œuvre d'art qui prend...
Photographiée, oui. Oui, alors c'est les deux, bien sûr. Vous n'êtes pas conscient du fait que la photo est aussi une œuvre d'art. Et en un sens, c'est quelque chose qui est gênant, puisqu'on peut se demander si un grand artiste de la photographie ne peut pas faire un chef-d'œuvre à partir de rien. C'est un des problèmes que cela peut poser. Donc, il ne faut pas que ce soit non plus trop artistique, auquel cas, il n'y a plus de document du tout. Mais donc, le musée imaginaire, pour être sérieux, c'est ça, c'est la possibilité de tout voir. D'abord en noir et blanc, d'ailleurs, la psychologie de l'art de Skira est à peu près entièrement en noir et blanc, et même les voix du silence sont encore très largement en noir et blanc. et ce sont les progrès du tirage couleur et surtout à bon marché qui permettent dans la métamorphose des dieux, le cycle ultérieur que mon ami Godard a présenté dans la Pléiade, d'être là donc avec la couleur.
Mais qu'est-ce que ça change alors de pouvoir regarder toutes ces œuvres d'art, et on va peut-être parler aussi un peu de la méthode Malraux de justement juxtaposition de ces photographies par terre chez lui qu'il regardait comme ça afin de composer ses livres. Qu'est-ce que ça change finalement d'avoir la photographie dans la perception qu'on a de l'histoire de l'art?
Ça permet de connaître ce qu'on n'aurait pas connu autrement. Au moment où on grandit, écrit, etc., les voyages n'est pas ce qu'ils sont maintenant. On faisait pas l'Inde en deux jours, ou le à bon marché, ou le Mexique en trois jours, n'est-ce pas? On n'y allait jamais parce qu'on n'avait pas les moyens, par exemple. Mais c'était pas une raison pour ne pas connaître les arts du Mexique. Et, alors, il y a eu des grandes expositions, mais elles étaient très rares. On cite toujours, entre les deux guerres, un exemple, la grande exposition d'art italien au Petit Palais, comme un événement extraordinaire. Maintenant, nous sommes gavés, blasés, mais au temps de Malraux, le vieil ministre, il organise de très grandes expositions d'art qu'on n'avait pratiquement jamais vu comme ça. L'Arcopte, par exemple, au Petit Palais, mettons, et bien d'autres. Même l'exposition Baudelaire, d'ailleurs, bien avant celle du Musée de la Vie Romantique maintenant, c'est lui qui l'organise en 68 au Petit Palais. Et on voit tout à coup des choses qu'on n'avait jamais vues dans ces grandes expositions, mais grâce à la photo, on en voit bien plus.
Et alors, comment travaille-t-il précisément?
Bien, il y a des clichés extraordinaires dans sa grande maison à Déco de Boulogne. On le voit. Il est parti de 30 000 photos pour en garder quelques dizaines. Il a à la fois une connaissance énorme de tout. Il a tout vu, comme vous l'avez dit. Il disait, j'ai vu tous les musées du monde. Et en même temps, il a une mémoire visuelle stupéfiante. Foudroyante, il retient tout. Il photographie tout et il retient tout. Et quelques semaines après, il est capable de vous décrire un tableau en entier. Il a une vue synthétique des tableaux, alors que Proust, par exemple, c'était plutôt un détail qui le frappait et qu'il n'oubliait jamais, dont le petit pan mur jaune de la vue de Delphes est le plus célèbre. Malraux, il retient tout. C'est absolument stupéfiant. Donc il sait exactement où il faut aller chercher les choses. La culture, c'est aussi ça, c'est savoir où sont les choses. Et donc il sait toujours où il serait ce qui lui manque, la photo dont il a besoin, il va la chercher, mais il hésite. Dans les épreuves, il y a des essais de photos différentes. Comme un artiste, il se demande si c'est mieux comme ça ou comme ça.
Il fait un travail de montage.
Oui, absolument. Alors c'est là qu'on retrouve le cinéaste et l'admirateur d'Eisenstein. Vous savez, le cinéma pour Eisenstein, un des génies du cinéma, qu'on ne montre plus assez maintenant d'ailleurs, c'est le montage. C'est d'abord ça. C'est dans Que Viva Mexico, dont on a vu les rushs à la Cinémathèque il y a bien longtemps, il tournait 12 fois la même scène et il savait pas très bien laquelle il allait prendre. Il allait découper ensuite. Donc cet art du montage est celui... Il y a un art du livre chez Malraux. Il a été directeur artistique chez Gallimard, il a fait réaliser de très beaux livres, et il conçoit, il n'est pas bibliophile, mais il conçoit que le livre doit être un chef-d'œuvre. Et c'est un chef-d'œuvre de montage. Là encore, il y a une métamorphose du livre, c'est-à-dire que ce qui a été prodigieusement novateur quand Les Voix du silence est paru, maintenant, paraît légèrement décalé par rapport à ce que nous faisons maintenant. Ça s'est métamorphosé, ça aussi.
Mais alors, cette idée du musée imaginaire, aujourd'hui, en 2016, elle prend une dimension extraordinaire avec Internet, avec la captation par Google, pour ne pas le nommer, de beaucoup d'œuvres d'art dans beaucoup de musées du monde. Et puis tout simplement, il suffit de taper le nom d'une œuvre d'art pour l'avoir immédiatement qui apparaît sur l'écran.
Oui, absolument. Ce que vous découvrez d'ailleurs, c'est par exemple quand vous cherchez un appareil de tableau, le Renoir, il n'y a jamais les mêmes couleurs. C'est vous avez 12 photos et puis c'est jamais tout à fait le même rouge, c'est tout à fait le même bleu, tout à fait le même vert. C'est là qu'on découvre aussi les faiblesses de la reproduction mécanique.
Picasso est le seul peintre au monde qui ait pensé que la vie d'un peintre n'est pas d'approfondir son art. Lui, a pensé qu'on devait changer de style. J'ai essayé d'expliquer que c'était pas du tout par hasard, c'était parce qu'il pensait qu'on devait approfondir sa révolte. Bon, mais néanmoins, il a dit « j'ai imité tout le monde sauf moi », ça veut dire qu'il ne s'est pas soucié d'approfondir son art alors que tous les autres s'en étaient souciés. Or, l'une des conséquences, c'est sa présence tout à fait extraordinaire dans la peinture et dans notre époque.
Some people try to pick up girls, get called an asshole. This never happened to Pablo Picasso. Why, he could walk down the street, girls could not resist his stare. Pablo Picasso was never called an asshole.
Et puis la dernière grande œuvre sur l'art de Malraux, c'est évidemment la monographie qu'il a consacrée à Pablo Picasso, La tête d'obsidienne, qui date de 1974. Il y parle à la fois de l'art de Picasso, bien entendu, mais aussi de l'homme dont vous disiez à l'instant, il y a quelques minutes, qu'il l'a bien connu, qu'il l'a rencontré à plusieurs reprises.
Oui, je ne pense pas qu'il était vraiment son ami. D'ailleurs, qui a pu
il
se
aimait
dire
bien,
vraiment l'ami de Picasso.
Exactement, il aimait bien se dire l'ami de Picasso.
Oui, mais il était fasciné par lui, sûrement, parce que, pourquoi essentiellement, enfin, il y a beaucoup de raisons à ça. D'une façon, Picasso est une sorte de grande récapitulation de toute la peinture et de la sculpture du monde, avec toutes ses faces.
C'est un musée imaginaire à lui tout seul,
oui,
Picasso.
C'est la raison pour laquelle il y a tant de musées Picasso à travers le monde. On a l'impression, on parcourt d'un coup tous les arts et en même temps toutes les périodes qui lui-même reflète toute cette histoire de l'art dans sa propre biographie artistique. Et en même temps, il rompt avec le temps, puisque une œuvre, disons, néoclassique de Picasso, on ne sait pas, peut être faite à la fin de sa vie comme au début. Donc, il est fasciné aussi par cette sorte de révolte naturelle. Picasso est une sorte de pervers polymorphe dans sa vie, mais aussi dans son œuvre, et il est capable de rompre avec tous les tabous et de tout inventer. Il prend une selle de bicyclette et un guidon, il en fait une tête de taureau.
Et c'est pour cela qu'il reste, nous explique Malraux. C'est pas le seul à l'avoir dit d'ailleurs, mais enfin, c'est pour ça que Picasso reste sans doute le plus grand artiste du XXe siècle.
Donc, il n'est pas du tout, Malraux n'est pas novateur quand il nous dit que Picasso est un immense artiste. Il témoigne simplement de la fascination qu'il exerce sur lui, parce que il aime peut-être plus Braque, par exemple. Mais en même temps, Braque, on va dire que Braque, qui est un génie pourtant, résume toute la peinture. Tandis que Picasso, on peut être risqué cela, d'une certaine façon. Il y a cette incroyable puissance démiurgique qui fait qu'il est un génie, comme il y en a un ou deux par siècle, dans le domaine des arts plastiques.
Pour terminer cette émission, il nous reste quelques secondes, quelques petites minutes. J'aimerais que vous nous disiez un mot sur le rapport que Malraux entretenait avec la mort à travers les œuvres d'art, dans l'idée qu'au fond, pour lutter, si on le peut, et sans doute ne le peut-on pas, contre la mort, il n'y avait qu'une chose à faire, c'était s'intéresser à l'art ou créer de l'art. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, c'est là l'essentiel, finalement. C'est que Malraux est hanté par la mort depuis son enfance ou sa jeunesse. Et comme il n'est pas croyant, il est agnostique, il pense que le seul geste qui s'oppose au destin, comme disait Mallarmé, aux fatalités à notre existence des parties par le malheur, et puis à la mort, qui est au fond du destin. C'est, s'il y a fatalité, c'est qu'il y a mort, au bout. Et donc, c'est ce geste, et c'est vraiment comme Proust, quand Proust part de Vinteuil, en disant, nous périrons, mais, avec la petite phrase de Vinteuil, notre mort aura quelque chose de moins probable, c'est exactement ce que croit Malraux. Pour quelques siècles, ce geste va dominer, même si l'artiste qui a dessiné les fresques de Lascaux est mort depuis bien longtemps, son geste est présent et c'est une sorte de triomphe sur la mort.
L'artiste plus que le romancier ?
Probablement, oui.
Merci beaucoup, Jean-Yves Tadié, et par merci cette dernière réponse, je crois qu'on comprend mieux. André Malraux, tout de suite, Jacques Bonafé, la poésie.
Bonjour, qu'attendons-nous rassemblés sur l'agora? On dit que les barbares seront là aujourd'hui. Pourquoi cette léthargie au Sénat? Pourquoi les sénateurs restent-ils sans légiférer? Parce que les barbares seront là aujourd'hui. À quoi bon faire des lois à présent? Ce sont les barbares qui bientôt les feront. Ce texte, En attendant les barbares, de Constantin Cavafy, traduit du grec par Marguerite Yourcenar et Constantin Dimaras, je l'ai entendu dire à Jacques Ralit, devant le Sénat, qui était venu rejoindre une manifestation pour la défense des soins, de la psychiatrie. Pourquoi notre empereur s'est-il levé si tôt? Pourquoi se tient-il devant la plus grande porte de la ville, solennel, assis sur son trône, coiffé de sa couronne? Parce que les barbares seront là, aujourd'hui, et que notre empereur attend d'accueillir leur chef. Il a même préparé un parchemin à lui remettre où sont conférés nombreux titres et nombreuses dignités. Pourquoi nos habiles rhéteurs ne viennent-ils pas à l'ordinaire prononcer leurs discours et dire leurs mots? Parce que les barbares seront là aujourd'hui, que l'éloquence et les harangues les ennuient. Pourquoi ce trouble, cette subite inquiétude? Comme les visages sont graves, pourquoi places et rues si vite désertées? Pourquoi chacun repart-il chez lui le visage soucieux? Parce que la nuit est tombée et que les barbares ne sont pas venus. Et certains qui arrivent des frontières disent qu'il n'y a plus de barbares. Mais alors, qu'allons-nous devenir sans les barbares? Ces gens étaient en somme une solution. Les poètes et l'État, c'est peut-être ça, les barbares. Et si je me souviens bien, dit Jacques Ralit dans ce livre, La pensée, la poésie et le politique, si je me souviens bien, je terminais chacune de mes allocutions par ces mots de Matisse. Il faut que le peintre accepte que surgisse sur sa toile l'imprévisible. Comment voudriez-vous que je dise cela mieux que lui ? La politique est souvent l'analyse de constats, la poésie, l'art, une histoire d'horizon. Un discours politique doit s'écrire avec les deux. Je n'ai pas non plus oublié ce que disait le poète Philippe Jacoté. Platon voulait bannir des poètes de l'État, d'autres États les engagent à leur service, ce qui revient au même. Un État véritablement sage devrait, mais c'est beaucoup demandé, leur réserver une place, mais que cette place fût celle du gêneur perpétuel. Oui, le poète n'est nécessaire que s'il demeure profondément inutile, et inutilisable. Vous vous rappelez d'ailleurs ce que dit Thaddeus Cantor, l'art est inutile, l'amour aussi. La politique, le politique n'a pas pour mission première de renouveler la langue, le poète, si. Toute pensée politique s'enrichit au contact d'une pensée poétique. C'est Jacques Ralit au Solitaires intempestifs. Tiens, je ne peux pas le quitter avec une dernière citation. Le ministère de la Culture a renoncé à être le grand intercesseur entre les artistes et les citoyens. Il répond de moins en moins quand on sonne à sa porte. Occupé qu'il est en duo avec l'Élysée, à nommer, dénommer, renommer dans tous les domaines. Il a perdu son pouvoir d'illuminer. Mais je me désole surtout de constater qu'il nous faut désormais autant convaincre les politiques que les artistes de la nécessité de dialoguer. La séparation s'est faite en douceur, à force d'abandon chacun de son côté. Et au final, tout le monde est perdant. Jacques Ralit.
Jacques Bonafé dans la compagnie des auteurs. Un très grand merci à vous, Jean-Yves Tadié, d'être venu nous parler de la critique d'art d'André Malraux. Outre l'édition des Écrits sur l'art dans la Pléiade, je rappelle que vous avez préfacé une édition établie par François de Saint-Chéron des Lettres choisies d'André Malraux 1920-1976. C'est également chez Gallimard. Et puis pour poursuivre cette exploration et continuer à entendre la voix d'André Malraux, vous pouvez trouver aux éditions Radio France deux albums, André Malraux, l'art et la manière, avec de nombreux entretiens, et puis Les femmes au Panthéon, qui contient notamment le discours d'André Malraux prononcé à l'occasion du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon.
Cette émission a été réalisée par Laurence Millet, à la console Anthony Thomasson, à la préparation Didier Pinault, Corinna Maran, Vanessa Prévost, Eva Le Sceau. La semaine prochaine, c'est à l'écrivain portugais autodidacte et prix Nobel de littérature 1998, José Saramago, que nous nous intéresserons. Mais tout de suite sur France Culture, vous retrouvez Nicolas Martin et la méthode scientifique.